Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, l'info éco.
16h01, la deuxième heure de BFM Bourse s'enclenche dans un instant par avant toute l'actu de cette fin de journée. Marjorie Adelson nous rejoint. Bonjour Marjorie.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Ça avance pour l'EPR de Flamanville. La SN indique qu'elle soumettra prochainement à consultation du public un projet d'autorisation de mise en service. Une fois l'autorisation obtenue, EDF pourra donc charger le combustible. Pour rappel, hier, Bruno Le Maire s'était invité au COMEX d'EDF pour mettre un coup de pression et s'assurer du respect des délais des futurs EPR. Celui de Flamanville accuse un retard de 12 ans. C'est confirmé, le déficit public dérape à 5,5% du PIB. En 2023, il atteint 154 milliards d'euros selon l'INSEE, contre 4,9 prévus initialement par le gouvernement. Quant à la dette, elle s'établit à 110,6% du PIB fin 2023. C'est moins qu'en 2022, mais c'est quasiment un point de plus que les prévisions du gouvernement. Un résultat pointé du doigt par le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Il dénonce un dérapage très rare et important. De son côté, Bruno Le Maire se montre déterminé. Il affirme qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts et que la France passera sous la barre des 3% en 2027. A noter par ailleurs que Gabriel Attal sera aux 20h de TF1 demain pour s'exprimer justement sur le budget. Dans l'actualité également, eh bien c'est Atos au pied du mur. En 2023, le groupe annonce une perte nette de 3,4 milliards d'euros. La société informatique en pleine crise financière est entrée dans une procédure amiable avec ses créanciers. Elle vise désormais un accord global pour restructurer sa dette d'ici juillet. L'ex-fleuron de la tech indique qu'il dispose de 2,4 milliards d'euros de trésorerie, soit assez pour couvrir les liquidités jusqu'à ce potentiel accord. À 4 mois des JO, le groupe qui assure les services technologiques de l'événement affirme qu'il n'y a aucun souci. Emmanuel Macron l'avait dit, la France doit passer en économie de guerre. Ce matin, c'est Sébastien Lecornu qui sonne la mobilisation. Le ministre des Armées souhaite accélérer la production et pour cela, il n'exclut pas des réquisitions de personnel, de stock ou d'outils de production. Autre mesure, il pourrait aussi imposer aux industriels d'accorder la priorité aux besoins militaires par rapport aux besoins civils. Ces mesures seraient permises par la loi de programmation militaire adoptée à l'automne. On termine avec BYD qui réalise un bénéfice record. En 2023, le fabricant de voitures électriques dégage 3,8 milliards d'euros. C'est plus 80% sur un an. A noter toutefois que le constructeur a connu une fin d'année plus difficile avec la guerre des prix sur le segment de l'électricité.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est votre shaker chaque après-midi. Oui, on agite l'ensemble de vos placements au rythme des marchés et on essaie de faire remonter les meilleures idées d'investissement. Bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver, de vous accompagner jusqu'à 18h avec l'ensemble de nos équipes. Aude Kersulek est avec nous, la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40. Bonjour Aude. Comment se passe cette séance cet après-midi en Europe?
Bonjour. Après une séance blanche, hier on a fait 0%, on tente aujourd'hui de remonter. On a quand même commencé la séance très doucement, mais là on prend le chemin de la hausse très doucement, mais sûrement. On est à 8176 points. Il faut dire que Wall Street a aussi ouvert dans le vert à 14h30 et puis évolue toujours légèrement en hausse.
Effectivement, les États-Unis où les signes de fermeté, de force, de solidité de l'économie se multiplient, les commandes de biens durables ont été publiées tout à l'heure, elles réaccélère plus que prévu, même en dehors du secteur de la défense, évidemment porté par le contexte géopolitique, même hors défense, les commandes de biens durables sont supérieures aux attentes. On parlera des perspectives de marché. Alors quand même, on a des prévisions un peu pessimistes là, de la part d'une grande banque américaine, JP Morgan, traditionnellement d'ailleurs parmi les banques les plus pessimistes du marché. Pour la suite, JP Morgan attend quand même une baisse de 20%, moins 20% du S&P 500 d'ici la fin de l'année. Ben, on va challenger cette prévision de JP Morgan avec nos experts. Notez qu'à Wall Street, c'est un événement aujourd'hui. Donald Trump a introduit en bourse, ça y est, son pôle média, Trump Media Stock, première journée de cotation. Le titre à l'instant à Wall Street pour cette première journée de cotation de Trump Media Stock gagne 40%, plus 40%. Alors ça inclut bien sûr son joyau, entre guillemets, son concurrent à beaucoup de réseaux sociaux, Truth Social, dont Donald Trump fait régulièrement la promotion. Et donc, voilà ce groupe de médias Donald Trump qui gagne quasiment 40% aujourd'hui, ce qui permet d'ailleurs à Donald Trump d'intégrer le groupe des 500 plus grandes fortunes mondiales. Voilà ce que permet à Donald Trump cette hausse aujourd'hui pour la première journée de cotation de son nouveau titre en bourse. Voilà, Donald Trump désormais parmi les 500 plus grandes fortunes mondiales. Et ce titre aussi, ben voilà, est dans le S&P. S'il faisait partie du S&P, il serait devant 80 compagnies du S&P en termes de capitalisation, puisque sa capitalisation dépasse les 15 milliards de dollars. Voilà, Trump Media Tech, à quelques mois de la présidentielle, gagne 40% pour cette première journée de cotation. Ici à Paris, on a quelques valeurs à ne pas rater. On pense à Ruby notamment. Vincent Bolloré monte à plus de 5% du capital. Ruby gagne 10% effectivement aujourd'hui, parce que le marché se dit que Vincent Bolloré ne va pas s'arrêter là, et on va aussi en parler avec nos experts. On est à vos côtés, bienvenue à tous. On joue dans votre camp jusqu'à 18h.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
On évoquait aussi Apple avec John Plassard, Apple dont les ventes en Chine apparemment se sont effondrées au mois de février. On en parlait avec lui dans la précédente demi-heure. Décidément, Apple a de plus en plus de concurrence en Chine, aussi bien dans le haut de gamme que dans le moyen de gamme. Une sorte d'effet ciseau sur Apple en Chine, dans un contexte en plus de grosses tensions et de pression réglementaire. On en parlait donc avec John. Le replay est à venir, à suivre sur bfmbourse.com, notre site. Bien sûr, vous en avez désormais l'habitude. Aude, Wall Street qui progresse, le CAC aussi, pas de jaloux, tous les marchés sont en hausse aujourd'hui.
Oui, mais pas de jaloux, il ne se passe pas quand même grand-chose sur ces marchés. L'agenda ne nous donne pas de palpitations. Cette semaine, on n'aura pas grand-chose avant vendredi avec la publication de l'inflation américaine. On aura Jérôme Powell aussi qui s'exprimera. Sauf que vendredi, les marchés seront fermés puisque la journée est fériée. Donc en fait, ça tombe assez mal et on va quand même pas mal s'ennuyer cette semaine. Alors à l'intérieur de l'indice parisien, on a une belle hausse. Celle de BNP Paribas qui a été soutenue par une relevée de recommandations d'analystes, plus 2,9% à 64,33€ devant Kering ou encore Renault. Du côté des baisses, on a Stellantis, mais on a aussi Carrefour où on a un actionnaire, le premier actionnaire d'ailleurs, la famille Moulin, un propriétaire des galeries Lafayette, qui se désengage peu à peu du distributeur. C'est encore le cas avec un accord pour un rachat d'actions entre la famille Moulin et Carrefour de 3,5% du capital. On a Carrefour donc qui est à la baisse cet après-midi, moins 1,2%. Et puis un actionnaire qui part chez Carrefour, un qui rentre chez Ruby. Alors on est sur le SBF, c'est une moins grosse capitalisation, mais tout de même, c'est un groupe industriel de logistique. Ruby, c'est la famille Bolloré, le groupe de Vincent Bolloré, qui rentre au capital, plus 10,4%. Ça fait décoller la valeur à 31,04€, tandis que la plus forte baisse du SBF 120, c'est Orpea, moins 10,7%. Et puis il faut que je vous cite bien sûr le point quotidien sur Atos, moins 2,3% après les résultats de ce matin, la publication de la perte nette à 3,4 milliards d'euros et la renégociation de la dette. Ça ne donne pas d'espoir pour l'instant aux investisseurs sur cette valeur.
Dur Atos, décidément. Pierre Bouchnit est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Depuis les bureaux de Kepler, Atos triple ses pertes annuelles, il compte renégocier sa dette. Qu'est-ce qu'on peut dire aux investisseurs qui possèdent encore des titres Atos, les garder, les vendre? Enfin, les vendre, ça entraînerait beaucoup de pertes, on imagine, pour un certain nombre d'entre eux. Enfin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on a du Atos en portefeuille?
Écoutez, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à leur dire, puisqu'on a une capitalisation de moins de 200 millions maintenant, et tout ce qui va se jouer en termes de valorisation des actifs et d'enjeux d'endettement sur la renégociation des dettes bancaires qui a été annoncée pour devoir être bouclée pour cet été, donc par le président du conseil de surveillance, il y a plus de 3 milliards et demi de dettes à renégocier. Donc, vous voyez que la valeur en bourse ne représente en fait que moins de 5% des actifs qui sont renégociés, donc on peut tout perdre, on peut gagner un peu, mais en tous les cas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui dans Atos.
C'est dit. Une autre valeur qui se distingue, alors Aude l'a cité, l'a évoqué il y a un instant, Ruby, c'est la star du jour, Ruby, à la Bourse de Paris. Le titre Ruby gagne 10%, Vincent Bolloré qui a franchi la barre des 5% du capital. Est-ce que le fait qu'il a franchi les 5% du capital mérite une telle hausse, ou le marché parie sur peut-être une poursuite de la montée en puissance de Vincent Bolloré? Comment vous accueillez cette hausse? Comment est-ce que vous l'interprétez de 10% pour Ruby?
Alors, tout ce que Bolloré touche est souvent transformé en or. Donc, d'une certaine manière, il y a un effet, je dirais, de track record, comme on dit, qui justifie la hausse du cours aujourd'hui. Il y a une annonce, d'ailleurs, qui est tombée il y a quelques minutes d'un autre actionnaire qui est rentré, Patrick Maudit, par la Compagnie Nationale de Navigation, qui est un investisseur institutionnel historique français qui a également annoncé avoir pris 5% du capital. Donc ça fait deux mouvements de, qui représentent 10% du capital, c'est significatif. Écoutez, Rubis, nous on est positif sur les titres. Hein. C'est une société qui a beaucoup baissé. Depuis le début de l'année, on est à plus de 40%, mais depuis 3 ou 5 ans, on a plutôt perdu 20 à 30% de la valeur parce que c'est à la fois une exposition très forte au marché du pétrole, hein, du pétrole et du gaz, donc ce qui n'est pas forcément très apprécié par les investisseurs. Et puis, il y a eu des problèmes, en tout cas la perception de sujets autour de la gouvernance du titre, puisque c'est une société en commandite par action, avec des actionnaires qui représentent 2% du capital, mais qui ont le contrôle de la société. Donc, c'est similaire à ce qui se passait chez Lagardère, pour faire un parallèle avec Bolloré, qui a fini par prendre le contrôle de Lagardère.
Par faire sauter la commandite. Est-ce qu'on se dit, est-ce que le marché se dit que Vincent Bolloré pourrait faire sauter la commandite aussi, comme il avait fait chez Lagardère?
À partir de 10% du capital, vous pouvez enclencher effectivement un mécanisme qui pourrait amener à faire sauter la commandite. Donc, effectivement, c'est un scénario qui est loin d'être improbable aujourd'hui.
On voit, pour ceux qui nous suivent à la radio, on voit ce titre Rubis là sous nos yeux, cette hausse spectaculaire. Alors, plus 10% aujourd'hui, mais sur un an, le titre gagne désormais 30%. Rubis, voilà, l'un des joyaux de la cour, l'un des joyaux en tout cas du marché parisien sur la séance du jour. Vous restez avec nous, Pierre, parce qu'on a une question d'auditeur aussi concernant le secteur de la santé, notamment Valneva. On va vous la poser dans un instant. Restez bien en ligne avec nous. Auparavant, un nouveau détour par la tour Euronext et Aude Kersulec qui nous accompagne. Aude, le CAC est en hausse. Vous avez repéré un autre titre à ne pas rater aujourd'hui.
Oui, c'est sur la bourse de Londres, le titre Azos. Bien sûr, ne pas confondre avec Atos, avec une lettre près, ce n'est pas du tout la même histoire. On est dans le secteur donc, de l'habillement, hein, Azos. L'habillement en ligne. On a eu des résultats avec un chiffre d'affaires du premier semestre qui a baissé de 18%, mais c'est conforme aux attentes. L'annonce qui a plu au marché, hein, parce que le titre est quand même en hausse de 9,7% à la bourse de Londres, ça concerne la trésorerie, avec le flux de trésorerie qui s'est largement amélioré. Il a progressé de 240 millions de livres. Donc c'est une action qui monte cet après-midi. Il faut noter quand même qu'elle est en baisse de 15% depuis le début de l'année. L'habillement, c'est quand même un secteur qui paye un prix fort en bourse depuis quelques temps.
Effectivement, alors avec quelques exceptions, la maison mère de Zara, notamment la maison mère de Zara, Inditex, qui s'en sort bien. Mais voilà, c'est vrai que le secteur quand même souffre assez globalement, malgré quelques exceptions. Pierre est toujours avec nous depuis les bureaux de Kepler. Pierre, cette question de Claude, donc pour tenter de répondre à nos auditeurs. On essaye hein, chaque jour de répondre à vos questions, vous tous qui nous suivez. Claude nous a écrit sur l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Vous pouvez vous tous faire comme Claude et nous adresser vos questions, on les pose à nos experts. Et Claude nous demande à propos du titre Valneva. Dans les biotechs, il y a, alors c'est le terme qu'il a choisi d'employer, c'est une cabale des marchés contre Valneva. Il estime que les nouvelles autour de Valneva sont quand même plutôt positives, mais que le marché ne les salue pas. Est-ce qu'il y a une cabale? C'est sa question. Et surtout, quel potentiel pour Valneva, d'après vous?
Alors, je pense pas qu'il y ait de cabane, mais effectivement, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles depuis 8 à 9 mois, depuis l'été dernier, on va dire, sur ce titre, et elles n'ont pas été effectivement saluées et valorisées par le marché. D'abord, les résultats 2023 qui ont été publiés là récemment étaient plutôt bons. C'est vrai que dans les biotechs, c'est important, au-delà du chiffre d'affaires, c'est la position en termes de cash et donc la capacité à continuer à pouvoir investir. Et donc, on a eu plutôt de bons chiffres annoncés par Valneva avec un cash de 126 millions à la fin de l'année dernière et puis également et surtout il y aura une forte réduction de sa consommation de cash sur l'année 2023. Donc on est plutôt dans une dynamique, je dirais, de sérénité par rapport au financement des projets de Valneva. Alors des projets, il y a un petit projet qui a été annoncé qui est le lancement d'une phase 1 donc très préliminaire sur un candidat vaccin sur le virus du Zika. C'est pas énorme, enfin ça viendrait compléter, je dirais, la panoplie de virus et de produits de Valneva. Il y a surtout en fait un gros produit qui est un produit qui est co-développé avec Pfizer aujourd'hui, qui est en phase 3, donc qui arrive, je dirais, à phase de commercialisation. Alors c'est vrai que sur ce produit, la phase 3 a été retardée à cause d'un problème de recrutement sur une étude qui est menée par Pfizer, donc pas vraiment du fait de Valneva. Mais ce produit, il est très important. Donc, c'est un produit qui traite la maladie de Lyme, qui est la transmission de maladies diabétiques. Donc, c'est 600 à 700 000 patients, si vous prenez l'Europe et les États-Unis. Donc, c'est des perspectives de chiffre d'affaires de l'ordre du milliard d'euros à terme, ce qu'on appelle les peak sales. Et donc, on attend pour la fin de 2025. Donc, au semestre 2025, en fait, c'est les résultats de cette étude.
D'accord.
Donc, ça devrait ou ça pourrait être un catalyseur important pour souvent 2024.
En attendant, ce titre Valneva recule un peu aujourd'hui, moins 0,28%, 3,59€. Merci Pierre. Merci de nous avoir accompagnés depuis les bureaux de Kepler. On remercie Aude aussi, qu'on salue à la Tour Euronext et qui va nous accompagner encore pour la suite de cet après-midi. On est à vos côtés, BFM Bourse, jusqu'à 18h. On vous suit aussi et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. On vous pose une question aujourd'hui sur notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Question concernant les small et mid cap, parce qu'on a tous les jours de nouvelles annonces d'OPA avec des primes importantes. Pour vous, l'avenir des petites et moyennes sociétés se situe-t-il ? Sera-t-il en bourse ou plutôt dans le private equity? Cette question, on vous la pose. Est-ce que l'avenir des petites et moyennes sociétés se jouera en bourse ou plutôt à travers l'investissement en capital, l'investissement en private equity? Question à laquelle vous pouvez continuer de répondre. Laissez-nous aussi vos arguments, les idées, votre opinion en commentaire. On rebondira dessus dans la prochaine demi-heure avec l'ensemble de la famille. Et tout de suite, Cécile qui nous rejoint aussi. Cécile Aboulian depuis les bureaux d'Inextenso. Bonjour Cécile, rebonjour. En fil rouge avec nous pour nous accompagner dans cette côte parisienne, nous apporter des idées de valeur sur lesquelles vous voyez du potentiel. Vous étiez avec nous tout à l'heure aux alentours de 15h50 pour répondre aux questions des auditeurs et téléspectateurs. Vous voulez à présent apporter une valeur en plus, une valeur ajoutée. Voilà, on va l'appeler comme ça, cette valeur en plus pour permettre à ceux qui nous suivent de compléter leur portefeuille. Et c'est le titre Touax qui vous intéresse. Vous êtes positif, vous êtes optimiste sur l'avenir du titre Touax en bourse, Cécile.
Absolument. Donc déjà, pour redéfinir le métier, Touax, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le transport bas carbone. Elle a vu le jour en 1853 et elle s'est cotée il y a plus de 100 ans. Alors, initialement, elle a été tournée vers la gestion de barges fluviales et elle a diversifié son activité vers la location et la vente de wagons de fret et de conteneurs. Elle est présente aujourd'hui dans 40 pays à travers plusieurs milliers de clients qui sont des compagnies de transport, des entreprises ferroviaires, des industriels. Et la société a affiché un chiffre d'affaires 2023 de 157 millions d'euros avec un EBE de 55 millions d'euros. Alors, après une année 2022 qui a été particulièrement dynamique avec la reprise du commerce mondial, l'année 2023 a été marquée plutôt par la normalisation du fret et de la location de conteneurs. Néanmoins, Touax est parvenu à afficher un EBE quasiment stable compte tenu de la hausse de sa productivité sur ses barges et de la vente de constructions modulaires. Et ce qu'on peut noter en même temps, c'est qu'elle bénéficie d'un business model relativement porteur, avec une forte visibilité de son activité sur la location, 80% de son chiffre d'affaires locatif est récurrent. Elle a également en détention des actifs qui ont une très longue durée de vie, entre 30 et 50 ans. Elle a un positionnement de leadership qui lui confère la possibilité d'avoir un pricing power intéressant. Et puis elle a une forte génération de cash flow opérationnel qui lui permet de soutenir ses investissements.
Touax, T-O-U-A-X, pour ceux qui seraient éventuellement tentés, on rappelle que c'est de la diversification. Alors, beaucoup d'arguments en faveur de ce titre, on comprend, opinion positive, favorable pour vos équipes chez Inextenso autour de Touax. Néanmoins, ce groupe est endetté à quasiment 300 millions d'euros. Est-ce que ça risque pas de peser sur ce cours, sur ce titre en bourse?
Oui, alors effectivement, près de 300 millions d'euros, 285 millions d'euros pour des capitaux propres de 150 millions d'euros, ça peut paraître élevé. Néanmoins, si on regarde la valeur des équipements détenus par le groupe, c'est 370 millions d'euros. Donc, en regardant ça, c'est plutôt satisfaisant. Mais surtout, si on regarde le niveau de valorisation aujourd'hui de la société, elle est très peu chère, malgré les perspectives de croissance de l'activité et de la rentabilité. La société, effectivement, elle affiche un actif net comptable de 11 euros. Elle a un PE de 4 contre 7 pour les 3 dernières années, donc ce qui permet de voir des perspectives de développement du cours à court terme.
Vous voyez le titre progresser jusqu'à 8,50€, c'est votre objectif de cours sur Touax. Merci beaucoup. Cécile Aboulian, régulièrement à nos côtés sur BFM Business, directrice Equity Capital Market pour Inextenso. Le CAC 40 est toujours en hausse de 0,4%. Alors on va entrer dans la saison de versement des dividendes. On se demandera dans quelques minutes si les entreprises qui versent de gros dividendes ont la légitimité pour intégrer des portefeuilles ESG. Est-ce qu'une boîte, une société cotée en bourse qui verse de généreux dividendes à ses actionnaires mérite d'être qualifiée ESG? On posera cette question à l'une des meilleures spécialistes des enjeux ESG. Il s'agit effectivement de Léa Dunant-Châtelet. Auparavant, le contexte macroéconomique. On va revenir sur la douche froide française, le déficit français qui continue de s'aggraver avec notre économiste. On va l'appeler tout de suite.
BFM Bourse, l'écho du monde.
C'est Samy Char qui est avec nous aujourd'hui depuis les bureaux de Lombard-Odier. Bonjour Samy, ravi de vous retrouver Samy.
Bonjour Guillaume.
Même si, c'est une triste nouvelle, le déficit français s'aggrave à nouveau, il progresse à 5,5% du PIB en 2023. Comment expliquez-vous, quelle est la principale cause de cette nouvelle aggravation du déficit français?
Alors c'est évidemment un sujet très politique et très émotionnel en France. Alors la raison, elle tient sur les deux branches. Déjà, il y a eu quelque part moins de recettes au niveau des prélèvements obligatoires qui ont été un peu plus bas. Il faut regarder là du côté des entreprises où ça a été un petit peu moins bien qu'attendu. On a moins reçu. Et puis au niveau des dépenses, évidemment, ça reste toujours conséquent sur les gros postes. On pense bien sûr à la retraite et ça fait qu'il y a eu ce dérapage et un déficit public qui est toujours significatif et bien sûr, des efforts vont devoir être faits pour retrouver une forme d'équilibre primaire, alors pas un surplus de la balance primaire, mais au moins se rapprocher un petit peu de l'équilibre. Ça va être un élément à garder en tête pour les années à venir.
Le gouvernement espère toujours ramener le déficit à 3% du PIB en 2027. Est-ce qu'on y arrivera sans passer par des hausses d'impôts, d'après vous ?
Alors, je ne veux pas être complaisant, mais c'est vraiment une discussion très très intéressante et quasiment de philosophie économique. La question, c'est est-ce qu'il faut faire de l'austérité ? Et notre sentiment, c'est que la France doit être capable de maintenir un degré d'investissement public, productif, dans les secteurs clés. On pense évidemment à l'énergie, au changement climatique, à la technologie, à l'infrastructure, à la défense. Et donc, il ne faudrait pas se retrouver dans un environnement où finalement ces investissements ne sont plus faits parce qu'ils sont absolument nécessaires au niveau stratégique. Et je vous rappelle que malgré un déficit important l'année dernière, la dette publique, elle, a un petit peu baissé en 2023. Donc il faut faire attention sur les politiques trop drastiques par rapport à tout ça. Ce qui est important, c'est aussi de maintenir quand même une forme d'ambition fiscale. Je me permets d'opposer ici les États-Unis, qui ont un déficit public plus important que le déficit public français. Il est à 6,5 aux États-Unis. Au déficit public allemand, qui est sous les 3, certes, mais enfin, on voit que l'économie allemande fait pas très envie aujourd'hui. Donc il faut faire un petit peu attention aux priorités et maintenir une forme de vélocité économique. C'est aussi important. Les investissements de long terme, c'est très très important dans le contexte actuel.
C'est sans doute ce que dit aussi le marché, puisque le marché ne réagit absolument pas à cette nouvelle dégradation des déficits publics français. Le 10 ans français se détend même légèrement dans la moyenne des autres taux européens aujourd'hui. Est-ce que néanmoins les agences de notation vont dégrader la note de la France en avril ? C'est le 26 avril que Fitch et Moody's actualiseront notre note et le 31 mai pour Standard & Poor's.
Alors, je ne crois pas que les marchés réagiraient énormément à une dégradation de toute façon. On se souvient qu'il y a eu une dégradation de la notation américaine et ça n'a pas beaucoup ému les marchés non plus. Encore une fois, ce qui est important, c'est cette espèce de mix entre les finances publiques, la dynamique économique, l'espèce de vélocité qu'on peut avoir, les investissements. Encore une fois, un déficit public, si ce sont de bonnes dépenses, si c'est vraiment de l'investissement, le marché va y adhérer. En revanche, évidemment que si c'est des dépenses d'investissement insoutenables, des dépenses, excusez-moi, de fonctionnement insoutenables et peut-être des baisses d'imposition vers ceux qui n'en ont pas besoin, le marché pourra le sanctionner, comme on l'a vu au Royaume-Uni. Donc vraiment, tout dépend un petit peu de qu'est-ce qu'on en fait de ce déficit. Et là, il faut avoir de l'ambition. On est dans un monde où on doit maintenir les investissements dans l'infrastructure et la défense. On doit maintenir sa compétitivité. Si on est juste dans l'austérité, on risque d'aggraver quelque part son cas. Et c'est là où les marchés peuvent aussi réagir assez fortement.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Samy Char, cette explication de texte autour effectivement de la dégradation, l'aggravation du déficit public français. Samy Char depuis les bureaux de Lombard Odier IM. Le CAC 40 est toujours en hausse de 0,27%, noté aux États-Unis. Donc le groupe de médias de Donald Trump qui s'introduit en bourse aujourd'hui. Trump Media and Tech Group, c'est une sacrée hausse, hein, plus 40% pour sa première journée de cotation. C'est un groupe qui inclut notamment son réseau social Truth Social. Et donc ça commence sur les chapeaux de roue à quelques mois de la présidentielle, plus 40% avec une capitalisation de 15 milliards de dollars, cette hausse permet à Donald Trump d'intégrer le club des 500 plus grandes fortunes mondiales, figurez-vous. Et cette capitalisation de 15 milliards de dollars, elle place le groupe au-dessus de 80, en termes de capi, de 80 des compagnies du S&P 500, par exemple. Ce groupe de médias de Donald Trump pèse plus lourd en bourse qu'American Airlines.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
C'est le monde qui change et qui bouge très très vite. Alors on va entrer à présent dans la saison de percement, de versement, de distribution des dividendes. Est-ce que c'est bien les dividendes ? Est-ce que c'est ESG les dividendes ? On va poser cette question à Léa Dunant-Châtelet, directrice de l'investissement responsable chez DNCA Finance. Bonjour Léa.
Bonjour Guillaume.
C'est cette question d'une auditrice qui nous met la puce à l'oreille. Elle s'appelle Mathilde, elle nous a écrit. Elle nous demande si une entreprise peut se prétendre ESG quand elle verse un généreux dividende à ses actionnaires au lieu d'investir cet argent dans des causes plus urgentes. Est-ce que le dividende, ça peut être ESG?
Bien sûr, c'est bien parce que ça permet de faire le pont avec cette éternelle question de la profitabilité, de la rentabilité, de la performance. Oui, je pense qu'effectivement, rappelons ce qu'est l'ESG au départ, c'est la prise en considération des parties prenantes de l'entreprise. Et en fait, les parties prenantes de l'entreprise, on a souvent tendance à les résumer aux impacts environnementaux et sur les communautés locales et aux salariés. En réalité, c'est beaucoup plus large que ça. Dans les parties prenantes, il y a les États, parce que les entreprises payent des impôts, il y a les fournisseurs, il y a effectivement les actionnaires, dont en général on fait partie directement ou indirectement, parce que à travers son épargne salariale, à travers beaucoup de choses, en général on est actionnaire d'entreprise. Et donc ce qui est intéressant derrière les dividendes, c'est la valeur ajoutée et le partage de cette valeur ajoutée. Toutes les parties prenantes d'une entreprise doivent bénéficier a priori de sa réussite, et ça va aussi en interne via les investissements qui pourraient être refaits. Donc, une entreprise, lorsqu'on regarde en général sa génération de profit et la manière dont elle le distribue, ça se répartit entre ses salariés à travers les salaires, ça se répartit à travers ses fournisseurs par les achats, les impôts qu'elle paye pour les communautés locales, les dons qu'elle peut faire, les dividendes qu'elle va reverser à ses actionnaires et les investissements qu'elle va ensuite réintroduire dans sa propre activité. L'idéal étant que ce soit équilibré. Et il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui arrivent à trouver cet équilibre. Et je rappelle, regardons dans les rapports annuels des entreprises que cette notion de valeur ajoutée, de partage de la valeur ajoutée est de plus en plus communiquée par les entreprises, notamment au moment des assemblées générales, période dans laquelle on s'introduit actuellement.
Oui, et un dividende, c'est pas un cadeau, c'est une avance. C'est-à-dire que quand un dividende, je sais pas, une entreprise vaut, on va dire ça comme ça, à 1 euro, c'est le cours d'une entreprise, voilà, et l'entreprise verse 10 cents de dividende, le titre va s'ajuster à 90 cents, voilà. Donc c'est pas un cadeau, c'est une avance en fait.
Tout à fait. Mais c'est en tout cas un très bon témoin de la performance d'une entreprise. C'est une très bonne nouvelle. Et à ne pas confondre avec le rachat d'actions, qui est un mécanisme un peu fictif, finalement, de revalorisation des cours boursiers, très pratique aux États-Unis, et où là finalement on peut se poser la question de n'y a-t-il pas mieux à faire dans une entreprise que de racheter ses propres actions. C'est toujours très très bien perçu en bourse, hein, ça, il n'y a aucun doute, mais en revanche c'est vrai que c'est un investissement qui pourrait être mis à profit, y compris de la stratégie de l'entreprise elle-même.
Donc pour répondre très simplement à cette auditrice, Mathilde, est-ce qu'une entreprise peut se prétendre ESG quand elle verse un généreux dividende au lieu de l'investir cet argent dans des causes plus urgentes? Vous lui dites oui, oui.
Oui, absolument, et autant aller s'intéresser à où est-ce qu'est reversé tout le reste de cette profitabilité et est-ce que c'est équilibré?
Ouais, pas trop se concentrer sur un aspect du
Absolument.
Bilan effectivement, et de la valeur ajoutée. Effectivement. Puis on rappelle aussi que le dividende est fiscalisé. C'est-à-dire que quand je perçois un dividende,
Je
perçois un dividende, l'État en profite aussi. Donc ça vient contribuer aux finances publiques.
Tout à fait.
Une valeur ESG dans laquelle vous croyez particulièrement? S'il fallait comme ça en présenter une seule à nos auditeurs et téléspectateurs.
Oui, je suis très contente parce que ça va me permettre de parler d'un leader français que j'aime beaucoup, Bureau Veritas, qui a fait son CMD, donc Capital Market Day, il y a quelques jours, et présenté donc son plan stratégique à horizon 2028. Les entreprises font ça régulièrement, c'est des plans à 3-4 ans en général. L'idée, c'est de présenter les perspectives de cet acteur historique, plus que centenaire, de la certification qui est un sujet dont on entend parler tout le temps et ça touche énormément d'industries. Ce groupe-là, il a annoncé tout simplement un plan qu'ils appellent le 3P, c'est portefeuille performance people, portefeuille parce qu'ils sont sur des segments très variés d'activités. Ils font de la certification dans les bateaux, ils font de la certification dans les bâtiments, ils vont également accompagner les entreprises dans la mise en place de beaucoup de procédures. C'est vraiment, je pense que tout le monde connaît le logo du Bureau Veritas, et ils sont présents partout dans le monde. L'idée, c'est de se reconcentrer sur les activités d'abord les plus rentables, mais aussi où ils ont des positionnements de leadership. C'est une entreprise qui prévoit un taux de croissance organique annuel entre 5 et 10%, c'est ce qu'on appelle entre le mid et le mid single et double digit. Donc ça va être vraiment une croissance très très forte pour une société de ce type-là, beaucoup moins volatile que par le passé. On a eu une société qui était apparentée à du cycle. Ils ont beaucoup intervenu, notamment dans les secteurs comme le pétrole et le gaz par le passé. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus large. Une amélioration continue de la marge. Pour nous, c'est vraiment un effort d'efficacité opérationnelle avec un management qui a toujours fait des annonces assez claires de leurs ambitions et qui les a tenues. Et pourquoi ça nous intéresse d'un point de vue développement durable? Parce que les certifications, notamment environnementales, mais aussi les normes de sécurité, sont vraiment au cœur des préoccupations que l'on regarde pour les entreprises. C'est ce qu'on appelle un enablers. C'est un facilitateur de la mise en place de beaucoup de procédures environnementales ou sociales aujourd'hui dans les entreprises.
Ce titre Bureau Veritas dans lequel vous croyez aussi en termes de potentiel boursier. Enfin voilà, oui. Vous nous présentez cette société, le marché la connaît aussi.
Oui,
tout ça n'est pas déjà dans le cours.
Alors c'est un peu dans le cours là en ce moment, mais il y a encore, je pense, du potentiel si on regarde effectivement.
BER 25 sur Bureau Veritas.
Tout à fait.
À donner.
Non, parce qu'on regardera plus précisément, mais il y a eu un rallye très récent. En réalité, c'est une société qui a été extrêmement challengée en fin d'année dernière, qui a un actionnaire de référence qui s'appelle Wendel, qui pèse un peu sur le titre. Et donc, c'est vrai que on a eu là un rallye assez important parce que la confiance des investisseurs sur les perspectives sont revenues sur le devant de la scène. Mais néanmoins, il y a probablement encore des belles perspectives et surtout, encore une fois, beaucoup moins de volatilité.
Léa Dunant-Châtelet. Ah, il se fait plaisir, Fabien.
Ah bon,
ouais, le rappel par la patrouille, n'importe quoi.
Comme
la
toujours,
régie,
c'est pas grave.
Fabien et Christophe qui bâtissent cette émission, l'univers sonore. Merci beaucoup, Léa Dunant-Châtelet, de nous avoir accompagné. Directrice de l'investissement responsable pour DNCA Finance. Bon retour, replay à suivre dans quelques instants sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. À suivre, la famille BFM Bourse, on parlera du Japon. C'est vrai que le Japon est à la mode. Hein. Beaucoup d'investisseurs recommandent de choisir le Japon désormais. C'est vrai que le Nikkei est sur des plus historiques, malgré une démographie quand même déclinante, au point qu'un des principaux fabricants de couches au Japon a ce matin annoncé qu'il arrêterait la production de couches pour les enfants, mais ils continueront à produire des couches pour les adultes du coup.
Ben oui.
Voilà où on en est au Japon. On en reparle dans un instant après la pause. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Et toute la famille qui se réunit là jusqu'à 17h, ils sont là en force et en forme. Julien Marion pour les équipes web BFM Bourse. Bonjour Julien.
Bonjour Guillaume, bonjour Julie.
Ravi de vous retrouver. Julie est là aussi. Bien. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume.
Ça va? Julie Cohen-Herton, qui bâtit cette émission également tous les jours, BFM Bourse, 15h30, 18h. J'espère que vous êtes aussi en forme que les marchés, Julie, Julien, parce que les marchés viennent à nouveau chatouiller
comme
les
Ruby.
Records. Comme Ruby, exactement. Ruby qui est en hausse de 10%, on va en parler d'ailleurs avec tous nos experts tout au long de l'après-midi. C'est l'une des stars. Ruby, l'un des joyaux du jour. On va y revenir dans un instant. Mais le CAC 40 aussi. Le CAC 40 progresse. Le CAC 40 vient chatouiller ses records. Plus 0,2%, 8170 points.
Oui, il est bien aidé par BNP Paribas. BNP Paribas qui prend quasiment 3% parce que Goldman Sachs nous dit qu'il y a du potentiel sur la valeur. Il passe à l'achat. Ils estiment que le groupe tiendra cet objectif, ce qui est pas pricé dans le marché, en fait. Et à contrario, vous avez quand même un peu de sous-performance du côté de Stellantis. Berenberg a déclassé à conserver parce qu'ils disent que bon, bah voilà, le groupe a bien progressé et il faut une respiration. Et Carrefour qui recule un tout petit peu parce qu'ils rachètent des actions à la holding de la famille qui détient les Galeries Lafayette.
Oui.
Avec une décote que j'ai calculée autour de 3%. Donc c'est pas illogique que vous ayez 1% de baisse.
C'est ça. C'est l'explication à cette baisse de Carrefour d'1,3%.
Je vous passe les détails du calcul parce qu'il faut exclure le dividende, mais voilà.
Ok, ils rachètent des actions avec une petite décote. Actions avec une petite décote. C'est ça l'idée.
Le cours de rachat, c'est 14,6, mais vous excluez le dividende à venir.
D'accord.
Vous arrivez à moins 3%.
Et un mouvement au capital, effectivement, puisque le propriétaire des Galeries Lafayette vend des parts, cédant aussi la place de premier actionnaire de Carrefour. Carrefour qui recule en ce moment d'1,3% dans un marché qui progresse. Merci aux banques. C'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup citées depuis le début de l'émission, mais les banques expliquent en grande partie cette hausse du CAC 40. Voilà. On est en hausse à l'unisson des autres marchés européens et de Wall Street qui progresse aussi. Jean-Louis Cussac avec nous depuis Perceval. Bonjour Jean-Louis. Ravi de vous retrouver en direct pour cette belle après-midi boursière. Comment est-ce que vous sentez les forces en présence dans le marché, là, Jean-Louis?
Ben là, on sent pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas beaucoup de volume. Le marché passe des heures à ne rien faire, avec des intérêts toujours très ciblés. Mais on peut pas dire qu'il y ait vraiment des programmes d'achat importants sur l'ensemble du marché. On a, alors là, comme vous l'avez dit, on aborde la période aussi des dividendes. Sur juin, on a une volatilité implicite à 11,2, donc on n'attend rien de particulier. Il y a à peu près, d'ici la fin juin, bon, j'ai fait des calculs environ, hein, il y a 190 points de dividendes à peu près dans la période, voilà, et c'est toujours la même chose, on entend des bruits de ci, de là. Alors on a eu le président de la Fed d'Atlanta qui a dit que il y aurait qu'une seule baisse des taux maintenant en 2024, et puis après il a dit, oui mais attention, il y a quand même de bonnes nouvelles à venir, et puis il y en a un autre qui a dit, non, on attend trois, enfin voilà, on peut pas dire qu'il y ait une convergence à ce niveau-là. Alors, l'idée, c'est de se dire, ce marché, est-ce qu'il est prêt à retracer ou pas? Alors, on cherche des indications. On voit qu'LVMH, le luxe en général, marque le pas. Mais les bancaires explosent. Vraiment, forte progression des bancaires. Après avoir sous-performé, elles resurperforment. Et donc, voilà, elles absorbent une partie de la baisse du secteur du luxe. Et où est-ce que pourrait être le niveau qui déclencherait une alerte? Ça pourrait être 8100. 8100 pourrait amener, si vous voulez, un signal de retracement jusqu'à 7910. En gros, on aurait entre le point haut et le point bas, jusqu'à 7910, 3,9%. Et 3,9%, sincèrement, c'est ce qu'on fait, mais normalement, sur un retracement qui ne remet pas en cause l'idée d'acheter ce marché. C'est un retracement qu'on appelle qui est tout à fait normal. Mais pendant ce temps-là, le DAX, lui, il fait des plus hauts chaque jour. C'est incroyable. Il ne retrace pas du tout. Il a une volatilité intraday très faible, mais il monte sans arrêt. Voilà. Et on retrouve donc l'Eurostock 50 entre les deux. Quoi acheter, c'est compliqué aussi. Donc les valeurs de rendement peut-être, mais c'est vrai que trouver des idées à ce niveau de marché, sachant que par exemple le marché met beaucoup plus de temps en partant d'un point haut à se retourner à la baisse qu'en partant d'un point bas pour se retourner à la hausse. Moi, je l'estime à environ 50%. C'est vrai que quand on est tout en bas, c'est violent. Donc, quand on s'éloigne du point bas, c'est avec violence souvent. Mm-hmm. Donc, tout ça, c'est logique. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des idées nouvelles.
Et puis, Jean-Louis, vous vouliez aussi jeter un regard technique sur un titre qui monte, depuis qu'on sait que Vincent Bolloré y a pris une participation de plus de 5%. Et ce titre, c'est Ruby.
Tout à fait. Alors, moi, c'est un titre que j'ai acheté depuis très longtemps. Je comprenais pas pourquoi ce titre était totalement délaissé. Dans le passé, il a valu jusqu'à 65 €, voyez-vous. Donc, alors, il y a un rendement, il diminue un petit peu avec cette hausse, mais il y a un rendement très important, 7-8%. Et là, en effet, Bolloré a annoncé le franchissement via une société du seuil des 5%. On peut se dire qu'il va aller au-delà, certainement. Le fait est que Ruby, c'est une commandite par action, donc c'est pas facile de prendre le contrôle. Il faut faire sauter cette commandite. Et bon, moi, je vise 42. C'était l'objectif que je m'étais fixé à l'époque. Donc, sur le plan technique, si vous voulez, on est dans la continuité d'un mouvement. Et là, également, on peut se dire, Ruby, c'est une belle valeur, il va y avoir de l'intérêt. Bolloré, donc, a pris une participation, il va pas s'arrêter là. Mais j'aimerais un retracement. Voilà, j'aimerais ce retracement. Mais en ce moment, comme on le disait juste il y a quelques minutes, il n'y a pas de retracement, mais c'est ce qu'on espère. Ouais. Un retracement pour acheter Ruby, mais comme d'autres valeurs hein, qui sont ramassées par des insiders, comme Bouygues qui rachète du Bouygues, qui rachète du TF1. Oui, c'est des valeurs qu'il faut surveiller, tout ça.
Ouais, et Ruby qui gagne désormais 11%, qui accélère encore à la hausse. Merci Jean-Louis, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure depuis Perceval à 17h35. Ruby, évidemment, star du jour. Mm-hmm. Julien, vous y consacrez d'ailleurs un article sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com.
Ouais. Oui, Jean-Louis Kissac l'a dit, hein. En fait, c'est Vincent Bolloré qui prend plus de 5% à travers une entreprise basée au Luxembourg. En fait, on a su ça hier, lundi, via un avis de l'autorité des marchés financiers. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas forcément tout en détail, hein, Ruby, je rappelle, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la distribution et le stockage de produits liquides énergétiques, hein, les gaz liquéfiés, les lubrifiants, le bitume, le GPL, et qui est très présent en Afrique et dans les Caraïbes. Voilà, juste pour le portrait éclair de Ruby. On ne sait pas combien Bolloré a déboursé hein, pour acquérir cette participation un peu supérieure à 5%, mais OdoBHF estime que ça tournerait autour de 130 millions d'euros sur la base de 25 € par action.
Oui, et quand on voit la progression quand même spectaculaire du titre Ruby aujourd'hui, mais hier aussi, on se dit que le marché se dit quoi? Que tout ça est positif? Vincent Bolloré qui se renforce dans un groupe, il se trompe rarement, c'est plutôt bon signe sur l'avenir de groupe. Vincent Bolloré pourrait même aller beaucoup plus loin, plus haut dans le capital. Enfin, que se dit le marché?
Non, mais c'est exactement ça, Guillaume. Alors, en fait, Jean-Louis Cussac l'a évoqué, une OPA, c'est improbable ou très peu probable parce que, comme il l'a expliqué, en fait, Ruby est en société en commandite par action. Alors, ça ne rend pas une prise de contrôle impossible, mais très difficile. Hein, ça dirige en forteresse parce que vous pouvez pas faire grand chose.
Il avait réussi à le faire chez Lagardère quand même.
Oui, mais c'était différent. Lagardère était en difficulté financière. Là, Ruby, ça va, hein, ça va en vrai. Et vous pouvez racheter la société, mais si vous n'arrivez pas à convaincre les commandités, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir en fait. Mm-hmm. Bon, mais au-delà de ça, c'est vrai, Vincent Bolloré, il a le nez creux en bourse. Et même quand il perd, il gagne. Je vais vous donner un exemple. Quand il a voulu racheter via Vivendi Ubisoft, ça n'a pas marché. Il a fini par renoncer en 2018. Donc voilà, c'est un échec. Mais sauf que. En vendant les actions Vivendi possédait dans Ubisoft, il y a eu une plus-value de plus d'un milliard d'euros. C'est quand même pas mal comme lot de consolation. Donc voilà un exemple. Bolloré a un bon historique de création de valeur via ses prises de participation minoritaire. Il connaît également bien les métiers de Ruby avec quelques actifs détenus auparavant dans la logistique pétrolière et le stockage d'électricité. C'est ce que nous dit OdoBHF qui d'ailleurs a pris pour, comment dire, a décidé qu'avec l'entrée au capital de Bolloré, eh bien, il fallait passer à surperformance sur l'action.
D'autant que les nouvelles sur Ruby, au-delà de la montée au capital de Vincent Bolloré, les nouvelles sur Ruby ces dernières semaines étaient déjà très positives.
Oui, c'est pour ça que le comparatif avec Lagardère est un peu compliqué. Ouais. Les résultats de 2023, ils étaient excellents, surtout dû aux Caraïbes, qui avaient des conditions de marché très bonnes l'année dernière. Et alors, deuxième chose, Ruby, il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'ils vont céder 55% de leur JV dans les terminaux pétroliers, ce qui permet de, en gros, conserver les stocks de pétrole. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Ruby, ça a plusieurs métiers et on considère qu'il n'y a pas beaucoup de synergie entre ces métiers. Donc, en vendant ces 55% dans cette JV, eh bien, ils vont se recentrer, ils vont simplifier, en fait, leur grille d'analyse boursière et ils vont par ailleurs dégager des ressources pour pouvoir investir dans les renouvelables. Je rappelle, Ruby, en fait, en 2021, ils ont racheté une société spécialisée dans le solaire qui s'appelait Photosol, ce qui leur a permis d'amorcer, en fait, ce virage vers les renouvelables très important pour les sociétés qui dépendaient du pétrole.
Ruby gagne en ce moment 11%. On continue de suivre ce titre, bien sûr, à la trace. On en reparlera tout à l'heure dans la suite de BFM Bourse. Notre CAC est en hausse, lui aussi, de 0,3%. Wall Street aussi en hausse de 0,3%. Il y a une fusée, là, sur le marché américain. Une valeur qui s'introduit aujourd'hui, c'est le groupe de médias de Donald Trump. À quelques mois de la présidentielle américaine, oui, il y a un stock Donald Trump qui s'est introduit en bourse aujourd'hui. Le Trump Media and Technology Stock, ce titre, pour sa première journée de cotation, gagne, tenez-vous bien, 40%.
Je ne serais pas étonné qu'on ait des variations un peu différentes. Je pense que le flottant est assez limité. Et on risque d'avoir des variations très violentes.
Capitalisation 15 milliards de dollars. C'est-à-dire que alors, le groupe ne fait pas partie du S&P, mais s'il en faisait partie, il serait en capitalisation supérieure à 80 boîtes du S&P. C'est-à-dire que la capitalisation de ce groupe de Donald Trump est supérieure à celle d'American Airlines, par exemple.
Ouais, ou de Renault.
Ou de Renault, ou effectivement.
Ou similaire, plutôt.
Cette hausse de 40% du titre aujourd'hui permet à Donald Trump d'intégrer le club des 500 plus grandes fortunes mondiales. Voilà. Mais oui, c'est ça la bourse aussi, et donc on suit aussi à la trace cette valeur sur le marché américain.
Mais pour l'heure, il est 16h44, c'est l'heure de la question qu'on vous pose tous les jours sur les réseaux sociaux de BFM Business, parce que vous le savez peut-être, tous les jours on se réunit, on s'interroge, on n'est pas toujours d'accord, et du coup on vous pose des questions sur les réseaux sociaux de BFM Business.
Alors aujourd'hui c'est une question sur les petites valeurs, alors que l'une d'entre elles, Micropole, fait à son tour l'objet d'une OPA avec une belle prime, ce qui montre à quel point en bourse les small caps restent sous-cotées, Julie.
Et à quel point elles ont des atouts aux yeux des sociétés d'investissement, mais est-ce qu'elles en ont à vos yeux ? Potentiel, vous y voyez ? Et c'est cette question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux de BFM Business aujourd'hui, aux alentours de midi. Les OPA se multiplient sur les small et mid cap. Où voyez-vous leur avenir ? C'est l'heure d'ouvrir vos boules de cristal. Est-ce que vous la voyez en bourse ? Est-ce que pour vous, ce sera du private equity ? Ou est-ce que vous les voyez directement au purgatoire ? C'est dur, ça. C'est dur.
L'avenir des small
et mid cap. Vous me surprenez.
Aucun indice.
Ça me surprenait parce que alors quand on a évoqué cette question en réunion, il n'y avait pas cette troisième possibilité.
Le purgatoire. Oui, c'est venu après le purgatoire. On s'est dit tiens pourquoi pas. Non, mais elles sont dans une forme de purgatoire les small mid, parce que le marché action ne leur donne aucune chance pour l'instant. Elles restent largement sous côté. En revanche, le private equity vient faire ses courses. Elles sont dans une espèce d'entre-deux entre l'enfer et le paradis. Voilà, c'est le purgatoire. C'est déjà le purgatoire pour les small mid. Et l'avenir, ce sera quoi pour elles ? La bourse ou le private equity ? D'après vous, Julien ?
Alors d'après moi, je suis biaisé, mais je défends ma paroisse. Il faut qu'il y ait un avenir en bourse pour les small mid cap, parce que sinon on perdra l'objectif initial qui est de la bourse, c'est simplement de pouvoir lever des capitaux et permettre le financement des entreprises via l'épargne populaire et évidemment l'épargne des entreprises. Donc si on se concentre que sur les méga cap, alors à ce moment-là, quel est l'intérêt de la bourse ? On est quand même censé financer nos ETI TPE. Donc voilà.
Oui, enfin, c'est un vœu pieux formulé. Honnêtement. L'avenir des small et mid, c'est en bourse ou en private equity ? C'est peut-être en bourse, hein, pourquoi pas ? Moi, je pense que c'est plutôt en private equity, vous voyez, parce que le private equity parvient à mieux les valoriser. Et puis, c'est pas si illiquide que ça, le private equity. Il y a des grands fonds qui permettent quand même d'être assez agiles aussi en private equity.
Guillaume, je suis optimiste. Vous avez peut-être raison sur le court terme. À moyen long terme, il y a probablement un avenir en bourse pour les small et mid.
Probablement un avenir en bourse pour elles, ouais.
C'est du wishful thinking, vous avez raison de me challenger là-dessus.
On en saura plus. Et on aura sans doute la réponse quand les taux des banques centrales auront commencé à baisser. Si à ce moment-là, les small et mid ne rebondissent pas, on pourra quand même s'interroger encore un peu plus. On verra, mais peut-être rebondiront-elles. On va voir ça. Nos auditeurs et les spectateurs, Julie, ils ont voté pour quoi ? La bourse ou plutôt le private equity pour ce qui concerne les small et mid ?
Alors, je ne sais pas, Julien, si vous êtes dans une utopie, mais en tout cas, nos auditeurs, téléspectateurs, ils vous suivent, ils sont d'accord avec vous, puisque vous êtes pour l'instant 46% à considérer que l'avenir des small et mid cap, eh bien, il est en bourse. Vous êtes quand même 36% a estimé que c'est un private equity et 18% a tablé sur le purgatoire.
Cécile Aboulion était avec nous tout à l'heure pour valeur ajoutée, parce que chaque jour quand même on met en avant ces petites et moyennes valeurs, leur potentiel, et elle est à l'achat sur le titre Touax, le groupe Touax qui est coté en bourse avec un objectif de cours d'ailleurs assez ambitieux. Si vous avez raté le direct, c'était à 16h10, valeur ajoutée, une idée de valeur en plus pour vos portefeuilles. Le replay, est disponible sur bfmbourse.com. 16h47, voici venu le moment du bullshitomètre. Chaque jour, effectivement, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, un préjugé de marché un peu trop facile. Christian Bitteau aujourd'hui est avec nous, professeur de finance à l'ESSEC. Bonjour Christian.
Bonjour.
Bienvenue. Le Japon est le pays dont la population est la plus âgée au monde. Le Japon, c'est donc has-been aussi en bourse. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, vous dites même bullshit. Vous foudroyez. Cette idée que le Japon en bourse, on s'en fiche. Pourquoi croyez-vous, vous, que le Japon doit rester prioritaire dans les portefeuilles ?
Mais c'est vrai que ça fait très longtemps, bonjour à tous tout d'abord, ça fait très longtemps qu'on ne parle plus du Japon. Depuis quelques mois, ça reprend heureusement le devant de la scène pour deux raisons. La première, qui est vraiment fondamentale parce qu'elle nous intéresse tous, c'est la croissance économique. Je pense que nous sommes tous d'accord que si nous rentrons en période de récession, ce qui était le risque l'année dernière, ça serait pas bon du tout pour nos placements financiers, pour la bourse, comme pour l'économie, comme pour ce qui se passe en France. Or, l'année dernière, quand on regarde comment la croissance économique mondiale s'est créée, on a bien entendu en tête toujours encore la Chine, même si c'était un peu plus faible, à 5%. On a, en termes de progression, les États-Unis qui ont agréablement surpris à plus de 2,5% de croissance économique. Et tout de même, parce qu'on l'oubliait, parce qu'elle était à taux, on est proche de 0%, le Japon, qui s'est enfin réveillé avec une croissance économique qui, l'année dernière, a atteint plus 2%.
Ah oui.
Ça, c'est pas trop mal. Et c'est la troisième puissance économique mondiale. Bien sûr, c'est loin derrière les 20 000 milliards de dollars des États-Unis, mais avec à peu près 4 500 milliards de dollars de PIB, c'est la troisième puissance économique mondiale, puisque l'Allemagne a rétrogradé d'un cran. L'Allemagne, ça va mal. C'est même passé plusieurs mois en négatif l'année dernière. Donc, on a bien eu besoin de ce moteur japonais pour ne pas sombrer dans la récession l'année dernière. Et pour 2024, idem. Aujourd'hui, qui est en tête ? Eh bien, États-Unis, Chine, même si ça ralentit à 4,5%, et le Japon prévoit encore plus de 2% de croissance.
Donc, bonne santé de l'économie japonaise, et ça se traduit dans les performances boursières depuis plusieurs mois maintenant.
Ah ben, c'est impressionnant. Depuis le début de l'année, on est à plus de 22% de performance. Sur un an glissant, on est à 47% de performance. Ça y est, c'est presque mieux que le Nasdaq. Ça se réveille enfin, ce qui se passe au Japon, et c'est assez impressionnant.
Sauf que la semaine dernière, le Japon a monté ses taux, donc début de resserrement monétaire. Donc
ça, c'est le deuxième point. C'est le deuxième point qui nous concerne aussi, donc il ne faut surtout pas négliger. C'est vrai que la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt. Alors, ça n'est pas ce qu'a fait la Turquie, qui a relevé ses taux d'intérêt, vous le savez, à plus 50% par an de taux d'intérêt. Mais enfin, eux doivent lutter avec une inflation galopante à plus 70%, ça n'a rien à voir. Non, Monsieur Ueda, le patron de la BOJ, Nichijin, pour les intimes, pour le nom de la banque japonaise, a relevé ses taux.
Très bien japonais, comment on prononce
Nichijin, je crois. Nichijin.
Je ne parle absolument pas bien japonais, c'est mon épouse qui parle très bien japonais.
Ueda, je pense que c'est un nom qui ressemble à un nom de ministre. Je pense que Ueda, on sait bien le prononcer, ça ressemble à un nom de ministre en France. Mais...
Oui.
Alors, il a relevé ses taux, alors c'était tout de même assez exceptionnel. Ça fait depuis 2016 que les taux japonais étaient à moins 0,10%. C'est-à-dire que l'argent était gratuit pour essayer de relancer enfin cette croissance économique japonaise. Et puis ça a fonctionné l'année dernière, puisque je vous ai donné les chiffres, enfin une croissance nettement positive au Japon. Puis là, il a décidé de les relever de moins 0,10 à plus 0,10%. Alors, c'était normal, il y a une inflation qui commence à se rapprocher des 2,8%, preuve que ça démarre bien au Japon. Il y a des syndicats qui demandent des hausses de salaire à plus 5% dans certains grands groupes, mais ça aurait pu être absolument catastrophique, parce qu'on oublie de parler d'une technique de gestion très pratiquée à la Citi, qui est vraiment la position numéro 1 de ce qu'on appelle les hedge funds, les gestionnaires spécialisés dans les prises de levier, qui s'appelle le yen carry trade. Alors, un instant pour l'expliquer, le yen carry trade, le célèbre yen carry trade, pour les spécialistes, c'est pas si compliqué que ça. En fait, le principe, c'est une position spéculative qui peut être très risquée. C'est simple. j'emprunte en yens. Ah, avantage, j'emprunte en yens à 0%, même j'empruntais jusqu'à la semaine dernière à moins 0,10%. Ensuite, je convertis mes yens pour acheter des dollars. Et je vais aller acheter des bons du Trésor américain. Bons du Trésor américain qui sont depuis 2 ans maintenant à plus de 5%. Et donc, on touche le différentiel entre le coût de l'emprunt et le rendement du placement. Et puis à la fin, les bons du Trésor à 3 mois arrivent à échéance, on récupère des dollars, on les convertit en yens et on a fait une très belle opération. Le risque, bien évidemment, c'est qu'au moment de la conversion, et je crois que quelques collectivités territoriales en France dans les années 80 ont goûté à cet énorme risque. Le risque, c'est que quand il faut rembourser l'emprunt, si le yen a remonté, on peut avoir des pertes infiniment plus élevées que l'écart de taux d'intérêt sur 3 mois entre des taux à 0% et des taux à 5%. Je vous épargne le calcul, mais ça peut faire très mal. Ouais. Et donc, on a eu très peur la semaine dernière. D'ailleurs, quelques heures avant l'annonce, le yen, d'un seul coup, s'est mis à remonter violemment. Et donc, s'il remonte violemment, ça peut créer la panique chez les gestionnaires spéculatifs. Ce sont des positions à levier très spéculatives, ouais. Bien entendu. Et à ce moment-là, ils rapatrient immédiatement leurs capitaux, ils rachètent du yen, ça fait remonter le yen. Et on enclenche un affolement sur les marchés. Alors, on considère que ces positions en yen carry trade pèsent plusieurs trillions de dollars. Je n'arrive pas à voir le chiffre exact. On sait que le volume de transactions annuel est de l'ordre de 20 000 milliards de dollars. Quel est l'encours ? Je n'ai pas le chiffre exact, puisque ce sont des positions donc hors bilan des hedge funds, principalement des hedge funds sur la place de Londres, de la City, mais ça veut dire que tout cet argent représente beaucoup d'argent investi dans la dette américaine. Principalement. Donc cela fait baisser les taux d'intérêt aux États-Unis. Et quand les taux aux États-Unis restent bas, ce qui se passe finalement depuis 2023 par rapport à l'inflation, depuis 2022, eh bien nos taux d'intérêt, nous en zone euro, restent bas aussi. Donc on a eu très très peur. Et puis alors je ne sais pas pourquoi, c'était dans les propos de M. Oudéa, il a dit on relève nos taux mais maintenant on va marquer une pause. Ça suffit par rapport à l'économie japonaise.
Ce qui a permis d'éteindre le feu.
Ça a permis avec des taux à 0,10, des taux des bons du Trésor à 5%, ça a éteint le feu. Le yen a à nouveau rebaissé et les spécialistes disent que les opérations d'Yen Carry Trade ont repris et tout ceci nous apporte de l'argent qui fait baisser les taux. On en a bien besoin aux États-Unis et en zone euro.
D'accord, mais ça plaide aussi pour le marché japonais, là, ce que vous venez de me dire, cette technique financière ou pas? Parce que l'idée que vous venez soumettre à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est que le Japon, c'est pas has-been, malgré une démographie quand même déclinante, au point que, Christian, je vais vous ramener à des considérations très terre-à-terre, on va parler de couches pour bébé, mais pas que pour bébé. Le principal, natalité catastrophique au Japon, le principal fabricant de couches au Japon a tout à l'heure annoncé qu'il cessait de fabriquer des couches pour les bébés, mais il va continuer à fabriquer des couches. Pour les adultes. Voilà où on en est au Japon.
Vous en remettez une couche. Je crois que c'est une société qui s'appelle Oji Holding, qui est vraiment le Pampers au Japon. Effectivement, ils ont tout le marché japonais. C'est une nouvelle, un peu anecdotique, mais importante pour cette société.
Croissance et démographie. Alors,
c'est vrai que le Japon est tout de même à le record. Maintenant, c'est la population la plus vieille du monde. La moyenne d'âge est supérieure à celle du Rocher de Monaco. C'est effectivement impressionnant. Le taux de renouvellement, ce qu'on appelle le taux de fécondité, de natalité des femmes japonaises, se rapproche de 0,6, le record de la Corée du Sud. Nous, on est encore à 1,6, 1,68 à peu près, mais on sait que pour qu'il y ait une expansion démographique, il faut qu'on soit proche de 2, voire 2,10%. En fait, quand on regarde la carte du monde, plus personne ne l'a. C'est-à-dire que même les États-Unis ou l'Allemagne ou la France, enfin tous les pays sont en dessous de ce chiffre magique de 2, le taux de fécondité des femmes, pour qu'il y ait une expansion de la population. Toutes les populations mondiales vieillissent, sauf l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est peut-être pas encore assez bien organisé pour que le joue économiquement ou financièrement sur les marchés, mais à la limite, on peut dire que le Japon vieillit, mais nous vieillissons aussi. C'est peut-être une des raisons fondamentales qui explique que depuis 2019, les taux d'intérêt soient passés négatifs en France, qu'on ait des taux toujours aussi bas. Parce que même encore aujourd'hui, avec une inflation qui est à 2-3%, on parlera certainement de ce sujet tout à l'heure, les taux d'intérêt sont tout de même très bas. En France, on a des taux à 2,80% à 10 ans. Mmh. Sommes-nous sûrs que l'inflation sera part de l'ordre de 2 à 3% à 10 ans. C'est d'ailleurs l'objectif de la Banque centrale. Ça veut dire que les vrais taux, ce qu'on appelle les taux réels, au-delà de la perte de pouvoir d'achat, sont toujours historiquement bas parce que c'est un comportement d'épargnant vieillissant, d'acheter des obligations, et alors très vieillissant au Japon, surtout qu'il n'y a pas de système de retraite, ni redistribution, ni capitalisation. Le japonais se crée sa retraite, et pour se la créer, naturellement, il achète des obligations, ce qui tient les taux très bas. Et ces taux très bas,
c'est intéressant pour eux parce
par contagion, pas chez nous.
Ils tiennent leur dette. C'est-à-dire que nous, une grande partie de notre dette est détenue à l'international. Les Japonais, eux, détiennent une grande partie de leur dette. Justement,
oui,
par ce phénomène
que vous décrivez.
Ça, c'est une force supplémentaire pour le Japon, a priori. Ouais.
C'était le sujet d'actualité politique cette semaine. Le Japon est beaucoup plus tranquille parce qu'ils détiennent leur dette. Ça leur permet d'avoir le ratio de dette sur PIB 221% en fait, de dette par rapport au PIB. Et ça tient très bien. Et ça n'empêche pas le pays de redémarrer parce que nous, on considère toujours aujourd'hui qu'il y a un fort coup d'accélération au Japon.
Julien, vous voulez dire un mot sur le Japon, un mot
mais
sur
non, mais juste parce que là, la question, c'est pourquoi le Japon bondit et pourquoi ça devient attractif. Il faut aussi voir que derrière la macroéconomie qu'on a évoquée, il y a un coup d'accélérateur qui est mis par les régulateurs boursiers pour que les entreprises japonaises elles prennent des mesures pour améliorer leur gouvernance et le retour aux investisseurs. Il y a ça, c'est un facteur très important.
Et puis, autre thème d'actualité qui sera peut-être développé tout à l'heure, on n'arrête pas de parler du déficit budgétaire. Ah, c'est la grande mode en France, Monsieur Le Maire a pris l'initiative.
Il est pire au Japon qu'en France.
Au Japon, mais en fait, si on fait un tableau très simple, la meilleure prévision économique, le déficit budgétaire, le taux de croissance économique. Je vous l'ai dit l'année dernière, mine de rien, la Chine était tout de même la première croissance économique. Déficit 7,4%. Le Japon, reprise de la croissance économique, déficit 6,2%.
Plaidoyer pour le Japon et l'investissement au Japon. Non, c'est pas has-been le Japon, malgré une démographie sacrément déclinante, effectivement, c'est impressionnant. Le taux de natalité est au plus bas historique d'ailleurs sur l'année 2023 au Japon, plus bas depuis le début des statistiques en 1899. Malgré tout, en bourse, le Japon est fécond. Christian, vous restez avec nous, vous nous accompagnerez dans le club dans un instant après la pause. On remercie toute la famille. Julie.
Merci Guillaume.
Salut Julie, à demain pour de nouvelles aventures. Et Julien Marion, les équipes Poète BFM Bourse. Cet article aussi consacré à Atos. On n'en a pas parlé d'Atos, mais Atos recule aujourd'hui. L'article est consultable sur bfmbourse.com. On se retrouve après la pause avec Christian, avec Louis également. Non, c'est pas Louis, c'est Louis Defay. Louis, c'est ça, c'est Louis qui va nous rejoindre pour mesurer le potentiel en bourse, le potentiel des marchés ces prochains mois, que ce soit en Europe ou à Wall Street. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.